Vous écoutez RFI 14h30 à Paris, 12h30 à Conakry et en temps universel. C'est Afrique Midi qui commence. Bonjour Simon Bourtembourg.
Bonjour Paul, bonjour à toutes et à tous.
Et c'est officiel, la Guinée est de nouveau candidate pour organiser la Coupe d'Afrique des Nations.
Conakry vise l'édition 2032 ou 2036 pour faire oublier le camouflet du retrait de la CAN 2025. Les autorités guinéennes entendent prouver leur capacité à recevoir le plus grand événement sportif du continent. En Guinée toujours, une figure majeure de la justice désavouée. Le magistrat Alghassimou Diallo, ancien procureur du procès du 28 septembre, devenu avocat général près de la Cour suprême, a été révoqué de ses fonctions par le Conseil supérieur de la magistrature. On y revient dans cette édition. À la une également, le Nigeria et le naufrage d'un bateau dans l'état de Sokoto. Le bilan est lourd, plusieurs dizaines de victimes sont à déplorer. La solidarité à la frontière entre le Cameroun et la Centrafrique après l'éboulement de la mine de Zamboy. Trois jours après le drame, le bilan des autorités centrafricaines fait toujours état de 49 morts. Les blessés, eux, se comptent aussi en nombre. Beaucoup affluent à Bawa, à environ 60 km du lieu d'éboulement. Et puis en Guinée-Bissau, le projet d'un référendum constitutionnel ne fait pas l'unanimité. La nouvelle constitution doit être soumise à référendum le week-end prochain. Le PAIGC, historique parti d'indépendance du pays, appelle à boycotter le scrutin.
La Guinée candidate à l'organisation de la CAN pour 2032 ou 2036.
Voilà qui lance donc la bataille des candidatures en Afrique de l'Ouest. La Guinée se retrouve en concurrence directe avec le dossier commun du Mali, du Niger et du Burkina Faso, également positionné pour la CAN 2032. Cette candidature de Conakry, elle sera officiellement présentée ce vendredi après-midi par le Premier ministre guinéen. Après le camouflet du retrait de la CAN 2025, Conakry tente donc de réhabiliter ses compétences. Selou Baldé est ministre des Sports guinéens. Écoutez.
Effectivement, la Guinée sera bel et bien candidate pour l'organisation de la CAN, soit de 2032 ou de 2036. Le Premier ministre chef du gouvernement a signé la lettre officielle de candidature hier au nom du président de la République de Guinée qui en fait de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations une priorité nationale.
Le ministre des Sports guinéen au micro RFI de Selou Diallo.
C'est une figure majeure de la justice guinéenne qui se retrouve désavouée.
Le magistrat Alghassimou Diallo, ancien procureur du procès du 28 septembre, devenu avocat général près de la Cour suprême, a été révoqué de ses fonctions par le Conseil supérieur de la magistrature. Motivé officiellement par des manquements professionnels, cette mesure s'accompagne de soupçons de contact avec le chef de l'opposition en exil. À des échanges téléphoniques avec Selou d'Alain Diallo ont été diffusés hier à la télévision nationale. Tanguy Bihan, vous revenez pour RFI sur l'origine de cette révocation.
Ce qu'il faut désormais appeler l'affaire Alghassimou Diallo a commencé mardi quand le ministre de la Justice Ibrahima Sori II Tunkara a suspendu le magistrat et saisi le Conseil supérieur de la magistrature afin qu'il se prononce sur son sort. Le CSM s'est réuni hier. Le magistrat Alghassimou Diallo est radié pour manquement grave au devoir de son État, à l'honneur, à la délicatesse et à la dignité de la profession de magistrat. Et hier soir, à la télévision nationale, le ministre de la Justice n'en a pas dit plus. Il a évoqué des faits, je cite, « pas trop catholiques ». Le présentateur a évoqué une conversation téléphonique entre le magistrat et l'opposant en exil Selou d'Alain Diallo. Une discussion qui, toujours selon la télévision nationale, porterait sur des manœuvres visant à déstabiliser la Guinée sur fond de considérations ethniques et politiques. C'est un montage grotesque, répond le porte-parole de l'UFDG, le parti de Selou d'Alain Diallo. Pour l'UFDG, aucun échange téléphonique n'a eu lieu entre les deux.
À Tanguy Bihan du service Afrique de RFI.
Plus d'une cinquantaine de morts emportés par les flots au Nigeria.
Le naufrage d'un bateau sur la rivière Goronio endeuille l'état de Sokoto au Nigeria. L'accident a eu lieu hier, jeudi, mais les opérations de sauvetage sont encore en cours en ce moment même. Dans la région, les crues de la saison des pluies rendent souvent la navigation plus difficile et augmentent les risques d'accident. Récit d'Harmonie Pondidiaga depuis Lagos.
Plus de 70 passagers se trouvaient sur cette embarcation quand elle a chaviré au milieu de l'eau jeudi matin. Le bateau aurait subi une avarie selon un habitant qui a participé aux opérations de sauvetage. Un député local évoque, lui, un trop grand nombre de passagers. Pourtant, le capitaine du bateau a tenté de dissuader certains de monter, relate-t-il, en vain. Plusieurs dizaines de personnes, dont des enfants, ont été immédiatement enterrées. La plupart des victimes étaient des travailleurs agricoles qui, chaque jour, se rendent de l'autre côté de la rive pour rejoindre des fermes et des rizières. Un habitant qui a perdu plusieurs membres de sa famille a exhorté les autorités à agir, en fournissant un moyen de traverser plus sûr, y compris la construction d'un pont, suggère-t-il. Le gouvernement de Sokoto avait l'an dernier distribué une vingtaine de bateaux motorisés et des gilets de sauvetage pour ces communautés qui empruntent les voies navigables. Un conseiller du village de Gorao, où l'accident s'est produit, affirme ne jamais avoir bénéficié de cette dotation. Harmonie Pondinyaga, Lagos, RFI.
À la frontière entre le Cameroun et la Centrafrique, la solidarité se met en place après l'éboulement de la mine de Zamboy.
Trois jours après le drame, le vrombissement des engins engagés dans une course contre la montre pour déblayer la masse de terre et retrouver les disparus. Le bilan des autorités centrafricaines a fait état de 49 morts, mais de nombreux témoins et proches de victimes évoquent plus d'une centaine de décès. Les blessés se comptent aussi en nombre. Beaucoup affluent à Babwa, à environ 60 km du lieu de l'éboulement. Rolf Steph Domialeux a pu s'entretenir pour RFI avec des victimes et des médecins centrafricains.
L'hôpital de district de Babwa a eu à enregistrer 9 cas de blessés en provenance du chantier Zamboy, dont un est décédé dès son arrivée au niveau de l'hôpital de district.
C'est la voix de Chancelin Abdonleki, médecin-chef de l'hôpital de Babwa. Selon lui, les victimes sont arrivées dans un état grave, couvertes de boue et souffrant de plusieurs blessures, fractures et traumatismes. Face à la gravité de la situation, une équipe médicale mobile a été également dépêchée à Zamboy.
Il y a une équipe de l'hôpital également qui a eu à enregistrer également 51 autres cas de blessures qui ont été prises en charge sur le site.
Certains patients sont mis en observation, tandis que d'autres souffrant de traumatismes du bassin sont dans un état critique. C'est le cas de Miguel, un ouvrier âgé d'une vingtaine d'années.
Le bloc de terre s'est effondré sur moi. Heureusement, les secours étaient déjà arrivés et ont pu me sortir rapidement. J'avais perdu connaissance. Parmi les victimes, il y a aussi des femmes et des enfants.
Après ce drame, le ministre des Mines, Rufin Benam Beltungu, a annoncé des mesures.
La justice sera saisie pour identifier les responsables. Cette situation déplorable est due en grande partie à la désobéissance de nos compatriotes. Nous allons non seulement continuer à faire de la communication, à les informer, à les éduquer, mais en même temps, nous allons renforcer la répression. Le caractère pédagogique de la répression permettra de dissuader un peu les récalcitrants.
Selon le gouvernement, le chantier aurifère de Zamboy est fermé jusqu'à nouvel ordre. Rolf Steve Domialeu, Bangui, RFI.
D'ordinaire, le chantier minier de Zamboy accueille en moyenne 15 000 personnes par jour.
Au Cameroun, le retour de Paul Biya ne suffit pas à calmer la société civile.
Le collectif Action Civile 237 revient sur le séjour à l'étranger jugé trop long du président camerounais. Il demande au chef de l'État d'assumer pleinement la fonction présidentielle ou bien de démissionner. Avant le retour de Paul Biya hier, le docteur Hilaire Kamanga, membre du collectif Action Civile 237, s'est adressé aux médias.
Aujourd'hui, au Cameroun, on est en train d'être géré par délégation de signature, qui deviennent des délégations de pouvoir. Et quand il vient faire 113 jours sans communiquer, sans aucun signe, on ne nous dit pas dans quel état de santé il est. C'est pas parce qu'il revient ce soir que ça change quelque chose sur notre questionnement, sur sa capacité à assurer sa pleine fonction de président de la République du Cameroun. Et donc, c'est à lui la responsabilité. Il faut, nous pensons qu'on est déjà en plein dans un processus transitionnel, mais nous croyons que M. Biya Paul, le président de la République, en fonction, bien qu'on ait des problèmes sur la capacité, est encore celui qui est au pouvoir. Et donc, c'est à lui que nous remettons la clé de l'initiative de la transition, afin que le pays puisse être sauvé de la guerre dans laquelle on est en train de nous entraîner, avec les guerres de clans qui sont en train de se voir, de se faire en surface autour de lui.
Le docteur Hilaire Kamanga au micro RFI de Richard Onanena.
Il est 13h39 à Cotonou, au Bénin. Steve Amoussou raconte à RFI ses conditions d'incarcération et ses projets.
Le cyberactiviste béninois est libre depuis hier. Il a purgé l'intégralité de sa peine 2 ans après sa condamnation pour harcèlement en ligne et incitation à la révolte. Des faits liés au compte du frère Unvi, très critique à l'encontre de l'ancien président Patrice Talon et à sa gouvernance. Notre correspondant à Cotonou, Jean-Luc Aplogan, a donc pu rencontrer hier Steve Amoussou à sa sortie de prison.
Steve Amoussou a franchi la porte de sortie au lever du jour sans son gilet de détenu. Ce sont des gardiens qui sont venus frapper à sa cellule pour lui annoncer sa libération. 9 heures plus tard, on le retrouve chez l'un de ses avocats, Maître Aboubacar Baparapé, entouré de quelques proches. Ses premiers mots sont des mots de délivrance.
C'est un ouf de soulagement. Je suis un citoyen libre. Ça fait plaisir.
Pantalon jean, t-shirt blanc, un pull sur le bras. La coiffure, elle, n'a pas changé. La même que lors de ses audiences. S'il est libre aujourd'hui, c'est qu'il a purgé sa peine de 2 ans, qu'il décrit ainsi.
Dur, non pas du point de vue des conditions de détention. Je veux ici louer le professionnalisme du personnel carcéral avec beaucoup d'humanisme. Mais j'ai passé 2 ans à l'isolement. Ça demande un effort psychologique, un effort mental relativement poussé.
À la question de savoir s'il est le frère Rouvi, il répond.
Ce qui mobilise les Béninois en ce moment, c'est de retrouver une nation où le consensus, le vivre ensemble est privilégié. Les Béninois savent qui je suis Amoussou Dontine Steve et c'est ça qui est important.
Sur son avenir, Steve Amoussou confie « Je vais essayer de faire ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire observer, analyser, comprendre et expliquer. » Fin de citation. Jean-Luc Aplogan, Cotonou, RFI.
Le projet de référendum constitutionnel ne fait pas l'unanimité en Guinée-Bissau.
La nouvelle constitution doit pourtant être soumise à référendum le week-end prochain. Présenté par le président du Conseil national de la transition, le texte entend clarifier les équilibres du pouvoir. Mais dans les faits, il prévoit de remplacer le régime semi-parlementaire par un régime présidentiel fort, renforçant donc les pouvoirs du chef de l'État. Une partie de la classe politique et de la société civile de Guinée-Bissau dénonce un passage en force pour ce scrutin organisé moins d'un an après le coup d'État du 26 novembre. Il faut dire que depuis, les sièges des partis politiques sont toujours fermés. L'opposition n'a donc pas pu faire campagne. Le PAIGC, historique parti indépendantiste du pays, appelle à boycotter le scrutin. Muniro Konté est le porte-parole du PAIGC.
D'abord, on a été exclu par le régime. Tout le procès de préparation de référendum a été entamé sans la participation des partis politiques, y compris le PAIGC, le PAI Tadaranka et Api Kabazarand. Et pour cela, on a fait le constat que ce n'est pas la peine de participer dans un jeu dont on a été exclu. À part ça, il y a toute une tendance de truquer pour le procès. Les représentants dans le bureau de vote, ce seront seulement les gens qui sont proches du régime. Et tous les mécanismes de réclamation qui sont mis en place d'habitude quand on est devant un procès électoral ont été effacés. Cela veut dire que comme on a été exclu, même si on envisage faire une réclamation, on ne parviendra pas.
En Guinée-Bissau, le référendum constitutionnel sera organisé le 30 août prochain. En bref, l'ONU alerte sur la progression exponentielle de l'épidémie d'Ebola en RDC. À ce jour, l'épidémie a fait plus de 2500 morts, selon le coordinateur principal d'Ebola pour les Nations Unies. Le bilan des décès s'alourdit évidemment chaque jour, a-t-il ajouté, précisant que la moitié de ces décès étaient survenus au cours des 20 derniers jours. En Tanzanie, le procès pour trahison de Tundu Lissou va se poursuivre. Après plus de 5 mois de suspension, le tribunal de Dar es Salaam a estimé ce vendredi que les preuves présentées par l'accusation étaient suffisantes. Tundu Lissou, membre du parti d'opposition Chadema, est poursuivi pour haute trahison. La justice tanzanienne lui reproche d'avoir appelé au boycott et à la perturbation lors des élections de fin 2025. L'opposant qui avait exigé une réforme du système électoral dans le pays se dit prêt à se défendre. Il exige que soit convoquée la présidente Samia Sulu Hassan lors de la suite du procès.
15 ans après la chute de Muammar Kadhafi, la Libye reste toujours divisée.
Fracturée par 2 gouvernements rivaux qui cherchent à se pérenniser, le pays s'enfonce, lui, dans une crise institutionnelle et sécuritaire profonde. Pourtant, le 20 août 2011, le régime de Muammar Kadhafi tombait. L'espoir d'un vent de liberté et de prospérité. Mais les Libyens sont pris aujourd'hui dans un véritable enfer économique, otage d'une impasse politique dont ils ne voient pas la fin. Ouda Ibrahim.
Curieusement, le 15e anniversaire de la chute de Kadhafi s'est accompagnée d'une série de violences qui ont touché l'est et l'ouest du pays, à commencer par l'assassinat à Benghazi du général al-Mansouri, chef du service de renseignement du maréchal Khalifa Haftar, en passant par les frappes de drones ayant visé des installations énergétiques vitales à Zawiya, à l'ouest, renvoyant dos à dos les deux pouvoirs responsables de la crise qui se transforme en une réalité à laquelle les parties prenantes, internes et externes, s'adaptent en cessant de chercher une vraie solution. Les élections générales espérées pour fin 2023 n'ont finalement pas eu lieu. L'État a échoué, tout comme la transition politique. Les forces qui ont émergé de cet échec ont réussi à construire des intérêts qui rendent le statu quo avantageux pour elles. Année après année, les administrations, les réseaux économiques, les appareils sécuritaires et les élites locales s'enracinaient dans cette réalité, rendant l'unification de l'État de plus en plus difficile. L'unité implique nécessairement une redistribution du pouvoir, des richesses et de l'influence.
Ouda Ibrahim du service Afrique de RFI. À plus de 300 migrants secourus au large de la Mauritanie. La pirogue en bois transportant des candidats à l'immigration clandestine partie de Gambie est transportée donc 40 enfants notamment. Les gardes-côtes mauritaniens précisent que toutes les personnes se trouvant à bord de l'embarcation ont été secourues.
En Mauritanie, justement, le débat sur le maintien au pouvoir du président fait de nouveau surface.
Alors que des voix proches du pouvoir réclament ouvertement un troisième mandat pour Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, l'opposition de son côté monte au créneau. Pour les adversaires du régime, eh bien, pas question de toucher à la constitution qui limite strictement le nombre de mandats présidentiels. Correspondance de Moussa Oumar Barry.
Abdallah Harmatallah, membre de la majorité présidentielle, estime qu'il est trop tôt de parler en troisième mandat. Mais toutefois, il n'exclut pas une réforme constitutionnelle du pays.
On n'a pas encore fini le second mandat. Il faut continuer à apporter son soutien à Mohamed Ould Ghazouani et accompagner le peuple mauritanien dans ses réalisations. Le jour où on aura fini ce mandat, en ce moment, on parlera de la suite. Pour qu'il y ait une continuité de cette action-là, je pense qu'une réforme de la Constitution proposée par les camps politiques et validée au niveau de l'Assemblée ne fait que restaurer une vitalité à notre vie politique.
De son côté, l'opposant Biram Da Abeid, arrivé deuxième aux dernières élections, affirme qu'un troisième mandat est contraire à la Constitution.
Les appels à un troisième mandat se multiplient, et pas dans la rue, mais à travers des cadres officiels portés par des responsabilités. Je m'adresse au chef de l'État. Il a juré de respecter la Constitution. Allez-vous tenir ce serment ? Où allez-vous le contourner? Et qu'on ne se trompe pas de débat, il ne s'agit pas seulement général Ghazouani, il s'agit de savoir si dans ce pays, un président peut changer les règles pour rester au pouvoir.
Lors de son dernier face-à-face à la presse nationale, le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani avait dit qu'il ne serait pas dans une logique contraire à la Constitution. Moussa Oumar Barry, Nouakchott, RFI.
La capitale mauritanienne où il est 12h47. À 2 heures de plus ici à Paris, l'heure d'un point sur les principaux titres de l'actualité internationale avec vous Paul Lonsin-Spinelli.
Le président iranien Massoud Pezeshkian affirme qu'il est temps de mettre fin à la guerre car Téhéran est en position de force selon lui face aux États-Unis. Après l'annonce de menaces américaines envers les alliés de l'Iran, la Chine a estimé que les sanctions économiques et les pressions ne permettront pas de résoudre le problème. La Turquie émet un mandat d'arrêt international contre Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, visé dans le cadre d'une enquête sur l'interception de militants de la flottille pour Gaza. Environ 430 membres de l'équipage avaient été amenés de force en Israël et mis en prison avant leur expulsion. La Finlande convoque l'ambassadeur russe après la violation de son espace aérien. Helsinki soupçonne un avion de reconnaissance envoyé par la Russie d'avoir survolé sur 9 km le territoire finlandais hier après-midi. Et puis le retour de deux grands championnats européens de football. Ce soir, la Ligue 1 d'abord avec Marseille-Strasbourg pour l'ouverture de la première journée à 18h45 TU. En Angleterre, c'est le début de la première ligue. Le champion Arsenal reçoit le promu Coventry à 19h temps universel.
Et on prend à présent la direction de la RDC où le dialogue national promis par Félix Tshisekedi reste encore sans cadre précis. Le chef de l'État congolais assure qu'il sera différent des précédents et qu'il permettra de renforcer la cohésion nationale. Mais plusieurs questions demeurent. Qui pourra y participer? Qui en fixera les règles et quels sujets seront mis sur la table? On en parle avec l'invité d'Afrique Midi, l'opposant Martin Fayoulou, qui réclame notamment la participation de Joseph Kabila et de Corneille Nangaa, chef de l'AFC M23, tandis que le pouvoir exclut de dialoguer avec ceux qu'il considère comme liés au Rwanda. Martin Fayoulou appelle également à une mobilisation nationale le 15 septembre prochain. Il répond aux questions de Patient Ligaudy.
Martin Fayoulou, bonjour.
Bonjour.
Félix Tshisekedi promet un dialogue différent de tous les dialogues qu'a connu ce pays. Pour vous, en quoi doit-il justement être différent, ce dialogue?
Pour nous, le dialogue doit être un dialogue sincère, un dialogue qui aborde toutes les questions qui concernent les Congos, un dialogue qui aborde les causes profondes de la crise congolaise, les causes internes, lointaines, récentes, les causes externes, lointaines, récentes, afin de trouver des solutions pour mettre le pays sur le rail.
Ce que vous dites là, c'est un tout petit peu le synonyme de la conférence nationale souveraine organisée au Zaïre en 1990.
Mais vous pouvez le prendre comme ça, mais pas avec la durée de la conférence nationale souveraine, pas avec 2850 participants. Non, c'est une réunion, un dialogue qui doit être court dans le temps. Ce dialogue ne peut pas faire plus de 3 semaines ou en tout cas plus d'un mois. Format réduit avec nos pères spirituels, les leaders religieux comme médiateurs, mais un dialogue qui a un seul objectif, c'est-à-dire comment sortir le Congo du trou dans lequel il est mis aujourd'hui.
Le gouvernement avait annoncé qu'une ordonnance présidentielle fixerait les modalités de ces dialogues. Acceptez-vous sur le principe que Félix Tshisekedi fixe par ordonnance les cadres d'un dialogue auquel il est lui-même partie prenante?
Non, c'est pas à Félix Tshisekedi de fixer les cadres ou de fixer les matières à traiter. Nous, nous savons ce que nous devons dire, toutes les questions concernant le pays. Mais c'est à lui de voir avec les évêques et les pasteurs comment est-ce que on convoque cette réunion. C'est à lui de voir, c'est aux évêques. Nous pensons que depuis le 17 juillet dernier, les évêques ont reçu et les pasteurs ont reçu les go pour l'organisation de ces dialogues nationaux inclusifs.
C'est-à-dire que vous n'attendez pas
forcément une ordonnance. On n'attend pas forcément une ordonnance, mais on attend que les dialogues soient convoqués le plus rapidement possible.
Le dialogue est évoqué depuis plusieurs mois. Le 17 juillet, vous venez de le rappeler, Félix Tshisekedi en a accepté le principe. Une ordonnance est annoncée, mais elle n'est toujours pas publiée. Maintenant, le président annonce une prochaine adresse à la nation pour préciser les contours justement du dialogue. N'avez-vous pas le sentiment d'être entraîné dans une succession d'annonces pendant que les temps passent?
Non, nous pensons que Félix Tshisekedi est en train de vouloir gagner du temps, mais il doit savoir qu'il y a une échéance. L'échéance, c'est 2028. En 2028, décembre 2028, qu'il veille ou pas, qu'il y ait organisation de dialogue ou pas, qu'il y ait élection ou pas, Félix doit partir. Nous l'avons dit qu'il n'y a pas de troisième mandat possible pour M. Tshisekedi et pour quiconque. Deuxièmement, 2028, que Tshisekedi le veille ou pas, il doit partir. Donc, s'il pense gagner du temps en essayant de trouver des subterfuges pour nous court-circuiter et donner un coup de massue après, je crois qu'il se trompe.
Vous avez explicitement demandé la participation de l'ancien président Joseph Kabila et de Corneille Nangaa, qui est le coordonnateur de l'FC M23, le mouvement politico-militaire qui contrôle une partie de l'Est de la République démocratique du Congo. Tous deux ont été condamnés par la justice congolaise. Et concrètement, Comment rendez-vous leur participation possible?
Je vois que ça fait polémique. Et M. Tshisekedi et son gouvernement discutent avec AFC M23 à Doha. Ils ont élaboré 8 protocoles d'accord. Et ces 8 protocoles d'accord, les belligérants, c'est-à-dire AFC M23 et le gouvernement congolais à la tête duquel se trouve M. Tshisekedi, ils vont nous imposer. Ils vont imposer ça à la société civile congolaise. Ils vont imposer ça à l'opposition congolaise. Non, nous disons que... il faut que tout le monde y soit. Tout le monde qui a contribué à la déstabilisation du Congo, qui a des raisons, qu'ils viennent évoquer ces raisons. Vous demandez comment est-ce que les gens qui ont été condamnés doivent participer. Mais moi, j'ai été à la conférence nationale souveraine. Il y a des gens qui étaient condamnés à mort. On a pris des mesures de décrispation, on a pris des mesures adéquates pour que ces gens-là y soient.
Martin Fayoulou, je vous dis merci.
C'est moi qui vous remercie.
L'opposant congolais Martin Fayoulou, un entretien à retrouver évidemment sur notre site internet et notre application. À 70 ans après l'indépendance tunisienne, on s'intéresse à l'une de ces figures oubliées. Dernier épisode ce vendredi de notre série de reportages consacrée aux figures oubliées de la lutte anticoloniale. Halima El Zaïma, patriote et soutien de l'ancien leader tunisien Bourguiba, s'est illustrée dans le pays dans les années 50. Une figure de l'ombre, vendeuse de vêtements et d'or, qui a mis sa vie au service de la lutte contre l'occupation française. Si son nom reste gravé dans les mémoires à Gabès, sa ville d'origine, eh bien son rôle majeur demeure largement méconnu par le public sur le plan national. Reportage Lilia Bless.
Au café Polygone, en face de la mer à Gabès, Fakhreddine et Oudé, les deux petits-enfants de Halima et Zaïma, se remémorent leurs souvenirs d'enfance et l'image de leur grand-mère, morte il y a 25 ans. Fakhreddine se rappelle d'une mamie costaud, aux multiples facettes.
Pour moi, ce n'était pas une femme, mais plusieurs femmes en une. Elle était très imposante dans sa façon de s'habiller, sa posture, son élocution. C'était une grande dame.
Houdé se souvient d'une femme qui parlait peu de son passé, mais le souvenir de l'engagement anticolonial de Halima El Zaïma s'est transmis dans la famille.
Vu que Halima était une vendeuse de vêtements qui faisait aussi le commerce des bijoux en or entre les familles, elle était très connue et respectée à Gabès. Quand est venu le moment de la lutte pour l'indépendance, elle s'est mise à transporter des tracts du parti de Bourguiba pour les militants. Elle leur amenait aussi des vêtements pour ceux qui se cachaient des Français. On a toujours entendu parler de son courage et de son amour pour Bourguiba.
Les rares photos de Halima la montrent en compagnie de l'ancien leader qui l'avait fait monté dans sa décapotable lors d'un défilé dans la ville. Devant l'ancienne maison de Halima, ses voisins qui se reposent à l'ombre se souviennent très bien d'elle.
Ici, on arrive dans son ancien quartier à Imalara, à Gabès. Voilà, ça, c'est ce qui reste de sa maison.
Fakhri Chagra, retraité, déplore qu'elle n'ait même pas le nom d'une rue à son nom.
Je ne comprends pas pourquoi elle n'a jamais eu quelque chose pour elle dans la ville. Que fait la municipalité? C'est comme si on l'avait oubliée, alors que moi, je me souviens encore d'elle à cheval avec Habib Bourguiba.
Et son souvenir s'étend au-delà de son quartier. Dans la foire d'artisanat, les commerçants parlent spontanément d'elle dès que l'on évoque son surnom, El Zaïma, la leader. Amor est artisan et musicien.
Moi, je me souviens qu'enfant, on prenait le car avec elle pour aller dans la ville natale du leader à l'occasion de son anniversaire. Elle était toujours avec nous.
Un héritage qui risque de s'étioler sans trace officielle de l'engagement de cette femme, notamment pour les plus jeunes générations. Lia Blaise, Gabès, RFI.
Et c'est donc en Tunisie que se referme cette édition avec le dernier épisode de cette série de reportages consacrés aux figures oubliées de la lutte anticoloniale. 10 numéros que vous retrouvez évidemment sur notre site internet et notre application. Restez bien à l'écoute de RFI dans 2 minutes maintenant, à la suite d'RFI Midi.
Merci beaucoup Simon Bourtembourg.
Okay, RFI, la sélection du mois.
Joey doit te filer.
Oh bordel, elle a snappé, elle a fait l'effrayer. Y'a beaucoup de baby, y'a beaucoup de bébés. Elle ne voulait pas et j'ai fini dans sa tête. Comme il gère beaucoup de dards, j'ai fini en tété.
EDS.
Gyal a pas tout dit. Bladjé, fuck tout good, EDS a pas tout dit. Même si on l'OTP jaloux dit ça nous nie. Ça pas cassifie, mais t'es dit fait tout l'été.
RFI Musique.
En hommage à nos reporters assassinés le 2 novembre 2013 à Kidal, RFI lance la 13e édition de la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Vous êtes technicien ou journaliste radio avec 2 ans d'expérience, vous avez moins de 35 ans et résidez à Madagascar, postulez sur RFI.fr avant le 31 août. 5 journalistes et 5 techniciens se verront offrir une formation à Antananarivo en octobre. Un jury sélectionnera 2 d'entre eux pour un stage à Paris avec l'INA et l'école de journalisme de Sciences Po, en partenariat avec l'ORTM Madagascar.
RFI, la sélection du mois.
Yasmine.
J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 ex-potes qui ramènent sur mon corps, j'aurais pété, ce sera peut-être mort. Rien que j'ai fait danser sans forcer avec le sac à dos.
Alléluia.
RFI Musique. Retrouvez ce vendredi sur RFI, Littérature sans frontières, avec Catherine Fruchon-Toussaint.
Et avec Yannick Lahens, lauréate du Grand Prix du roman de l'Académie française, récompensée pour son livre « Passagère de nuit », où l'écrivaine haïtienne raconte 3 générations de femmes entre la Nouvelle-Orléans et Port-au-Prince, une fiction très inspirée de ses aïeuls.
Littérature sans frontières, avec Catherine Fruchon-Toussaint.